VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toute le monde aujourd'hui, édition du mardi 7 août 2018. En direct de Washington, Idrissa Seroudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a annoncé l'amnistie d'environ 800 personnes, dont Simone Gbagbo, épouse de l'ex-président Laurent Gbagbo.
En République démocratique du Congo, toujours pas de candidat de la coalition au pouvoir, à moins de 48 heures de la clôture du dépôt des candidatures à la présidentielle du 23 décembre prochain.
Toujours en RDC, début demain d'une campagne de vaccination contre la fièvre hémorragique Ebola dans l'est du pays.
En Éthiopie, des émeutes et des affrontements dans la région Somalie ont fait un nombre indéterminé de victimes civiles et des milliers de personnes déplacées.
Les sanctions américaines contre l'Iran sont entrées en vigueur depuis 4 heures, temps universel. Téhéran rejette l'offre de dialogue de Washington.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant. Le journal.
Simone Gbagbo, l'ancienne première dame de Côte d'Ivoire, devrait sortir de prison prochainement, bénéficiant d'une amnistie du président Alassane Ouattara. Cette amnistie a été annoncée hier par M. Ouattara dans son discours à la Nation à l'occasion des 58 ans de l'accession du pays à l'indépendance. D'Abidjan, correspondance de Georges Ibrahim Tunkara.
Simone Gbagbo bientôt libre, c'est l'annonce faite par le président Alassane Ouattara dans son discours à la Nation à l'occasion des 58 ans de l'accession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance.
Cette amnistie bénéficiera à environ 800 de nos concitoyens. Figure notamment Madame Simone Eyde Gbagbo, Monsieur Lida Kwasi, Assoua Adou, Suleiman Kamarake, Guy Soultou. Il s'agit là d'une mesure de clémence. J'invite donc tous les bénéficiaires de cette amnistie à faire en sorte que notre pays ne sombre plus jamais dans la violence.
Le président ivoirien s'est voulu rassembleur dans son discours, appelant à plusieurs reprises ses compatriotes au pardon et à l'unité. Alassane Ouattara s'est également prononcé sur la polémique relative à la commission électorale indépendante, une commission décriée par l'opposition qui exige sa recomposition. Le président Ouattara dit avoir instruit le gouvernement à l'effet de réexaminer la composition de cette commission, selon lui le fruit d'un consensus au sein de la classe politique, une classe politique qui dans son ensemble salue ce discours du chef de l'État à la Nation, Georges Ibrahim Tunkara, pour VOA Afrique, Abidjan.
En République démocratique du Congo, toujours pas de candidat de la coalition au pouvoir, à moins de 48 heures de la clôture par la commission électorale du dépôt des candidatures à la présidentielle du 23 décembre prochain. Arrivé fin mandat depuis décembre 2016, le président Joseph Kabila, à qui la Constitution interdit de se représenter, ne s'est toujours pas désigné un dauphin. C'est dans ce contexte que le président de la Commission de l'Union africaine et l'Union européenne, tout comme les évêques catholiques, appellent de leur côté au respect de la Constitution, des droits et libertés de tous les Congolais et à l'application des mesures de décrispation du climat politique prévues par l'accord du 31 décembre 2016. Les détails avec Thierry Kamundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Quatrième à déposer sa candidature à l'élection présidentielle de décembre prochain, l'opposant Vital Kamerhe a rejoint Seth Kikuni, Jean-Pierre Bemba et Alain Daniel Tshiekomba. Cette liste va être complétée les 48 prochaines heures par Félix Tshisekedi, dont le parti a annoncé le dépôt du dossier ce mardi, Adolphe Mouzitou et Martin Fayoulou qui, eux, déposent mercredi. Ensemble pour le changement, la plateforme électorale de Moïse Katumbi a également annoncé le dépôt de la candidature de son leader bloqué en Zambie qui n'a toujours pas pu accéder au territoire congolais par la frontière de Kasumbalesa. Par contre, pas de nouvelles du candidat du Front commun pour le Congo, la nouvelle plateforme électorale de Joseph Kabila. Le président sortant, dont le dauphin reste attendu, a reçu la semaine dernière tous les partis et regroupements politiques du FCC à qui il avait demandé de lui proposer chacun 4 noms des candidats présidentiables. Interrogé à ce sujet, Lambert Mende Omalanga, le porte-parole du gouvernement, s'est contenté cessé de dire que le Front commun pour le Congo déposera dans le délai le dossier de son candidat président de la République. Kinshasa, Thierry Kamboudi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Pendant ce temps, à Lubumbashi, en marge des protestations de la population pour le retour de Moïse Katumbi, notre correspondant Narval Mabila nous signale que dans la commune de Kenya, un sous-commissariat de police a été saccagé et incendié par les manifestants. Et deux véhicules ont été aussi incendiés hier soir au croisement des avenues Bukama et du marché.
Toujours en RDC, les autorités ont annoncé le début demain d'une campagne de vaccination contre la fièvre hémorragique Ebola dans l'est du pays. Le point avec Lionel Gaïma.
Le docteur Baté Njokolo, directeur général de la lutte contre la fièvre Ebola au ministère de la Santé, a déclaré que la vaccination commence demain mercredi. Plus de 3200 doses sont disponibles et le vaccin sera administré surtout au personnel médical en première ligne dans la lutte contre l'épidémie qui touche Mangina, une localité à 30 km de Beni dans le Nord Kivu. Aucun nouveau cas n'a été enregistré depuis samedi. À cette date, le ministère de la Santé avait fait état de 43 cas dont 13 confirmés et de 33 décès dont 3 parmi les cas confirmés. Cette nouvelle épidémie à virus Ebola est signalée près de la frontière avec l'Ouganda et le Rwanda, une région qui connaît une forte présence de mouvements rebelles. Il y a seulement quelques jours, le ministre de la Santé avait annoncé la fin d'une autre épidémie qui a tué 33 personnes dans la région de Mbandaka, dans le nord-ouest du pays.
Des émeutes et des affrontements dans la région Somalie, dans l'est de l'Éthiopie, ont fait un nombre indéterminé de victimes civiles et ont contraint des milliers de personnes à fuir leur foyer, a dénoncé hier le patriarche de l'église orthodoxe éthiopienne. Les détails avec Irénée Herman Ungbo.
Au total, 7 églises ont été incendiées, des prêtres, des civils ont été tués et des milliers de déplacés, déplore Abuna Mathias, patriarche de l'église orthodoxe Tawahedo. Ces violences ont débuté samedi dans Djidjiga, la plus grande région après celle Oromo. La présence des soldats éthiopiens aurait provoqué la colère de la population somalie, déclenchant des émeutes et des violences ethniques. Le gouvernement d'Addis Abeba a déployé les forces fédérales et la police pour restaurer l'ordre. L'ambassade des États-Unis a confirmé que l'armée éthiopienne a déjà pris contrôle des principaux axes routiers, des bâtiments officiels et de l'aéroport de Djidjiga. Des habitants ont rapporté que des émeutiers s'en étaient pris à des banques, des commerces et qu'ils avaient attaqué physiquement des non-Somalis. D'ailleurs, le gouvernement djiboutien a condamné les violences contre les estivants djiboutiens dimanche à Dir Dawa.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a salué hier la signature d'un accord de partage du pouvoir au Soudan du Sud. Il a enjoint les belligérants à le finaliser rapidement pour mettre fin à près de 5 ans de guerre civile.
Le président américain Donald Trump recevra fin août à la Maison-Blanche son homologue kényan Uhuru Kenyatta, le deuxième dirigeant d'Afrique subsaharienne à être reçu par M. Trump après le Nigérian Muhammadu Buhari. Selon la Maison-Blanche, cette visite de M. Kenyatta est prévue le 27 août.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique. Les sanctions américaines contre l'Iran sont entrées en vigueur depuis 4 heures temps universel, marquant une nouvelle escalade entre Téhéran et Washington. Le régime iranien a rejeté l'appel à dialoguer des États-Unis, Abdourahman Dia.
Le président iranien Hassan Rouhani a jugé insensé cet appel lancé par les États-Unis au moment où des sanctions économiques sont appliquées. Associer des négociations à des sanctions, c'est insensé. Ils imposent des sanctions aux enfants iraniens, aux malades et à la nation, a lancé Rouhani lors d'un entretien télévisé. Il a accusé les États-Unis de vouloir mener une guerre psychologique contre son pays pour, dit-il, provoquer des dissensions parmi les Iraniens. La première vague de sanctions vise à bloquer les transactions financières et les importations de matières premières, ainsi que des sanctions sur les achats dans le secteur automobile et l'aviation commerciale. Et à partir du mois de novembre, les secteurs clés du gaz et du pétrole seront particulièrement visés. La Commission européenne a indiqué qu'elle va activer dès ce matin la loi dite de blocage. Cette législation, qui date de 1996 pour contourner les sanctions américaines sur Cuba, la Libye et déjà l'Iran, interdit aux entreprises européennes de se conformer aux effets des sanctions américaines en dehors du territoire des États-Unis.
Chrystia Freeland, ministre canadienne des Affaires étrangères, a réaffirmé hier la détermination de son pays à défendre les droits de l'homme dans le monde après l'annonce de l'expulsion de son ambassadeur à Riyad pour ingérence. Face à la fermeté canadienne, Riyad a annoncé de nouvelles mesures, suspension des bourses universitaires pour ses ressortissants au Canada et transfert des étudiants vers d'autres pays. Suspension aussi des vols de Saudi Airlines à destination et en provenance de Toronto, la plus grande métropole canadienne.
La justice vénézuélienne a promis de poursuivre tous ceux qui conspirent contre la paix après l'attentat dont le président Nicolas Maduro dit avoir été la cible. Selon les autorités vénézuéliennes, deux drones ont explosé à proximité de la tribune présidentielle lors d'une cérémonie militaire dans le centre de Caracas. Un mystérieux groupe rebelle baptisé Mouvement National des Soldats en chemise a revendiqué l'action dans un communiqué sur les réseaux sociaux. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui.
La Minute Écho et qui abonne.
Afreximbank veut devenir incontournable. 25 ans après sa création, l'institution panafricaine enchaîne les bons résultats et table sur une nette montée en puissance de ses opérations. Le président nigérian de l'institution financière depuis 2015 et ses deux prédécesseurs n'ont cessé de rappeler le pessimisme qu'Afreximbank a dû affronter au début des années 90 suite aux ajustements structurels et la dévaluation du franc CFA. La Côte d'Ivoire multiplie les commandes d'importation en gaz domestique en vue de satisfaire la demande nationale. Selon un cadre de Petrosi, un butanier est arrivé jeudi et a livré plus de 9000 tonnes de gaz et un autre devrait arriver en milieu de cette semaine. Les commandes de gaz pour la consommation domestique devraient continuer jusqu'à ce que la situation redevienne normale. Koudoukou, ville burkinabé située à 100 km à l'ouest de Ouagadougou, va abriter en septembre prochain la toute première édition du Salon international du coton et du textile axé sur le thème « La transformation intégrée du coton, facteur de création d'emplois et de richesses ». Placé sous le haut patronage du président Roch Marc Christian Taboré, cet événement se veut une plateforme d'affaires de mise en relation entre les professionnels, décideurs, producteurs et investisseurs.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Nouvelle défaite africaine à la Coupe du Monde des moins de 20 ans en France.
Ah oui, le Nigeria battu 1-0 dans le groupe D par l'Allemagne pour son entrée dans la compétition. Une défaite qui est arrivée en seconde période sur un but allemand de Stéphanie Sanders à la 69e minute de jeu. Dimanche, le Ghana avait été lourdement battu par la France, pays organisateur, 4-1. Hier, les Espagnols ont battu sur le même score le Paraguay, 4-1. Haïti battu par la Chine, 2-1. Et c'est une surprise à noter la défaite des États-Unis lors de leur premier match, une défaite 1-0 face au Japon.
Football et la période des transferts.
Eh oui, l'international brésilien Willian reste à Chelsea alors que des rumeurs de transfert faisaient état d'un possible départ de l'ailier de 29 ans. Si l'avenir de Willian s'éclaircit, d'autres cadres de Chelsea comme Thibaut Courtois ou Eden Hazard, courtisés par le Real Madrid, restent encore flous. A noter que l'attaquant nigérian de la Gantoise Samuel Kalou s'est engagé avec les Girondins de Bordeaux pour les 5 prochaine saison. Passé par Rennes de 2011 à 2014, le Burkinabé Jonathan Bitroypa s'est engagé avec le Paris FC. C'est un club de Ligue 2 française. Un contrat d'un an. Le Standard de Liège et Christian Louis Ndama ont trouvé un accord. L'international congolais vient de signer un nouveau contrat avec le club belge. Et puis Lens, toujours de la Ligue 2 française, a officialisé la signature de Saïf Tka en provenance du club africain. A noter également que l'Argentin Hector Cooper, dont le contrat de sélectionneur de l'Égypte n'avait pas été renouvelé fin juin, a été placé à la tête de l'Ouzbékistan. Son but, qualifier les Ouzbeks pour le Mondial 2022.
Saïdo Berahino pourra jouer avec le Burundi lors des qualifications à la Coupe d'Afrique des Nations 2019.
Annoncé hier de la FIFA, le joueur de Stoke City, né à Bujumbura, mais international anglais dans toutes les catégories de jeunes, a reçu l'aval de la Fédération internationale de football pour porter le maillot officiel de son pays natal, le Burundi, en compétition officielle.
Tour cycliste du Rwanda.
La deuxième étape entre Kigali et Huye, remportée par un Rwandais, Samuel Mugisha, qui s'impose avec 21 secondes d'avance. France. Sur son compatriote Ouizeye, on retrouve les deux mêmes protagonistes au classement général. Mugisha s'empare du maillot jaune. À suivre ce mardi la troisième étape de 195 km entre Ouye et Moussanze.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoulia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le Front populaire ivoirien, le FPI, se félicite de la mesure d'amnistie annoncée lundi soir par le président Alassane Ouattara et dont bénéficieront quelques 800 personnes, y compris l'ancienne première dame Simone Gbagbo, condamnée à 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État. Timothée de Nangmaï a recueilli la réaction de Pascal Afinguessan, président du FPI.
Le Front populaire ivoirien se réjouit de ces mesures qui étaient attendues par les Ivoiriens depuis plusieurs années et qui ont fait l'objet de beaucoup de batailles politiques au niveau de l'opposition, au niveau du Front populaire ivoirien. Et je crois que tous ces messages, tous ces appels, aussi bien venant de la communauté nationale qu'internationale, ont été entendus et nous nous réjouissons que le chef de l'État ait décidé donc d'amnistier tous les prisonniers politiques, de procéder à la libération de Mme Simone Gbagbo ainsi que de tous les cadres du FPI qui étaient en prison. Ce sont des mesures salutaires et lorsqu'on les ajoute aux mesures de réforme du cadre juridique institutionnel des élections, on peut considérer que c'est une nouvelle page qui s'ouvre dans le jeu politique en Côte d'Ivoire. Nous nous en félicitons et nous espérons que ces mesures-là vont permettre à la Côte d'Ivoire d'ouvrir une nouvelle ère, une ère de paix, une ère d'unité nationale, une ère de réconciliation et une ère où les principes démocratiques vont être restaurés de manière à ce que la compétition électorale de 2020 se passe dans la transparence, dans la sincérité pour doter le pays d'institutions légitimes.
Si je vous comprends bien, c'est le dernier obstacle dans la voie de la réconciliation qui tombe ainsi.
Il y a encore quelques prisonniers militaires et nous espérons que d'autres mesures viendront sans trop tarder pour permettre à toutes les familles concernées par le sort des prisonniers militaires de retrouver elles aussi la joie, le réconfort. Et c'est cela aussi qui pourra permettre véritablement d'appeler toutes les entités à se trouver autour d'une même table pour parler de la réconciliation nationale. Parce que ces mesures sont des mesures de décrispation, de normalisation, mais la question de la réconciliation nationale, la question de penser les blessures, les autres blessures liées aux morts, aux disparus de la crise post-électorale, liées aux réformes qu'il faut engager pour que la Côte d'Ivoire ne retombe plus jamais dans les situations que nous avons connues par le passé. Ce sont ces mesures qui devront faire l'objet de négociations pour que, véritablement, ensemble, nous fondions un nouveau contrat social pour une nouvelle Côte d'Ivoire.
Que signifient ces mesures pour l'ancien président Laurent Gbagbo qui est toujours détenu à la haine?
Mais ce sont des mesures d'espoir. À partir du moment où les choses évoluent favorablement en Côte d'Ivoire et que les fils de ce pays semblent, à travers ces mesures, prêts à se parler, à s'asseoir pour parler ensemble de l'avenir de leur pays, c'est un contexte qui ne peut que impacter positivement le dossier du président Gbagbo que nous considérons tous comme un dossier politique. Et si l'environnement politique est à la décrispation en Côte d'Ivoire, cette décrispation aura indubitablement un impact sur le dossier du président Gbagbo, sur la libération du président Gbagbo.
C'était le président du Front populaire ivoirien, Pascal Afinguessan, joint à Bongouanou, dans le centre-est de la Côte d'Ivoire.
Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire.
Au Niger, au moins 3 chaînes de télévision sont fermées et 4 autres doivent payer des millions de francs CFA pour avoir à nouveau le droit d'émettre. La Direction générale des impôts leur réclame des dizaines de millions de francs CFA. Abiy Mahamadou Salissou, ministre de la Communication, rejette toute volonté gouvernementale de bâillonner ces médias critiques du pouvoir. Idriss Fall a recueilli la réaction de Moussa Aksar, directeur du journal L'Événement à Niamey.
En ce qui concerne mon organe de presse, le fisc, selon un redressement fiscal fait à la va-vite et bien orienté, me demande de payer 37 millions de poussière.
Comment est-ce que vous arrivez à payer 37 millions de francs CFA?
Et là, j'ai écrit au fisc pour dire que je suis contre ce redressement fiscal. Je ne peux pas payer d'abord, puisque là, non, pour payer le salaire et autres dépenses au niveau de l'organe, on ne peut pas du tout se permettre de payer tel montant vraiment qui, à mon point de vue, a été fait de façon vraiment orientée.
Combien de journaux sont concernés par la mesure?
Oui, il y a plusieurs journaux. Ce qu'il faut dire ici, ce sont les journaux qui dérangent le régime du Soufou et ce qui révèle la malgouvernance, ce qui révèle vraiment la façon dont il dirige le pays. Et c'est pour cela que ce redressement fiscal orienté a été dirigé contre ces organes pour pouvoir les anéantir, les assassiner, les empêcher de dire au peuple nigérien les travers de ce régime-là. Les autres organes qui jouent la flûte ne sont pas concernés. Même s'ils sont concernés, ils ont pu avoir des échéanciers de complaisance allant jusqu'à 10 ans pour qu'ils puissent payer ces impôts-là qui s'étalent sur 2 à 3 années selon des cas.
Et notamment la télévision de Ali Idrissa qui vient juste de sortir de prison d'ailleurs, non?
Oui, Ali Idrissa et aussi, sa télévision a été fermée. Ce matin, il y a le journal Le Courrier qui a révélé cette affaire. Des 100 milliards d'uranium qu'on a appelé Uranium Gate. Il y a plusieurs journaux qui sont en train d'être fermés par le régime et ce qui est grave pour la démocratie parce que ces journaux accompagnent la démocratie. Ils font de leur mieux pour que la démocratie s'installe dans le pays.
Et on a entendu le ministre de la Communication pourtant offrir de jouer un rôle de médiation alors que la direction générale des impôts n'entend pas changer de fusil d'épaule.
Mais la direction générale des impôts est sous ordre. Le ministre de la Communication, moi je trouve que c'est un bluffeur. Il veut essayer de jouer au grand patron parce que si vous regardez, il est certainement au courant des actions qui le régime allait entreprendre pour fermer les journaux parce qu'ils ne veulent pas que certaines choses soient révélées. C'est ça la question.
C'était Moussa Aksar, directeur du journal L'Événement à Niamey.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Le gouvernement et les rebelles du Soudan du Sud viennent de signer à Khartoum un accord sur le partage du pouvoir, un nouvel accord qui vise à mettre fin à la guerre civile meurtrière qui dure depuis 2013. Le chef rebelle, Riek Machar, aura le poste de premier vice-président. L'accord prévoit aussi la formation d'un gouvernement de 35 ministres et un parlement de 550 députés. Pour une analyse, Abdourahmane Dia a joint à Paris Mohamed Nadi, rédacteur en chef de Soudan Tribune.
D'abord, cet accord concerne la gouvernance et le partage de pouvoir. Et donc, c'est une partie au revoir et remettre en mise à jour, j'allais dire, pour des accords de paix qui ont été signés il y a 3 ans, en 2015. Donc, c'est une partie d'un accord global pour le paix dans le Soudan. Il s'agissait donc de partage de pouvoir.
Il y a quelques semaines, un autre accord avait été signé, mais les rebelles l'avaient finalement rejeté, estimant que le président Salva Kiir aurait trop de pouvoir.
Il y a quelques semaines, on a signé les arrangements de sécurité, c'est-à-dire le security arrangement.
L'aspect sécuritaire.
C'est-à-dire par rapport au cessez-le-feu, par rapport à l'intégration de l'armée rebelle dans l'armée nationale, etc. Donc, ça, c'est autre chose. Mais dans le même temps, on a parlé de partage de pouvoir et c'est là où les rebelles, ce sont pas les rebelles, mais si vous voulez, là, il s'agit de nos positions dans son ensemble. Il y a une partie de l'opposition qui sont des factions armées, une partie de l'opposition qui sont de l'opposition politique, c'est-à-dire des partis qui portent pas des armes. Le premier accord a été signé et ça a été finalisé.
Le Soudan du Sud est un pays pauvre. Pourquoi autant de ministres et plus de 550 députés?
C'est pour plaire à cette multitude de factions, oppositions et rebelles, vous savez. Et c'est ça le problème.
D'accord. Le problème ici, on a un pays très divisé et donc les gens se basent surtout sur des bases ethniques, c'est-à-dire forment des partis politiques et sur des bases ethniques, etc. Parce que l'identité et l'appartenance, enfin le tissu national n'est pas encore totalement prêt, n'est pas là. Donc les gens s'appuient sur des structures tribales et autres, chacun voilà, prétend se représenter et n'est pas représenté par tel ou tel parti.
Mohamed Hadji, rédacteur en chef de Soudan Tribune, joint à Paris.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Cameroun, les chantiers de la CAN 2019 avancent à Garoua, une ville située dans le nord et qui va abriter l'une des poules de la compétition. Mais pour cela, Garoua doit se doter d'un nouvel hôpital régional, de routes et surtout d'infrastructures sportives conformes aux exigences de la Confédération africaine de football. Notre correspondant au Cameroun, Emmanuel Junultap, s'est rendu sur place.
Sur l'ensemble des sites, impossible de marquer un pas sans tomber sur les échafaudages, des machines à tourner le béton, des camions et autres engins lourds. Garoua, c'est aussi ces mots d'été répandus le long de la voie publique et qui annoncent le passage imminent du goudron par endroits. Côté infrastructure sportive et hôtelière, les grands travaux ont été confiés à l'entreprise Prime Potomac. Yannick Azehetio supervise la construction d'un stade d'entraînement de 1050 places au quartier Ndjoumassi à Garoua.
Tous les ouvrages, de façon générale, le gros devrait terminer. Le second devrait enclencher. Normalement, d'ici la fin de cette semaine, la couche de terre végétale doit être partout. Ce qui reste à faire, c'est de mettre le gazon.
La fin du mois de septembre prochain est annoncée comme délai de livraison de 4 terrains d'entraînement, d'un hôtel 4 étoiles et d'un autre hôtel en cours de rénovation. Achille Chamdia Tabeti, chef des travaux de l'hôtel des sports de Garoua, le futur hôtel 4 étoiles.
Les travaux vont bon train et dans un rythme soutenu. Nous sommes pratiquement à la fin du gros œuvre techniquement de l'ossature porteur du bâtiment. Donc d'ici peu, si vous étiez venu, je veux dire une semaine plus tard, vous deviez voir qu'on a commencé aussi les nuits de remplissage. Nous comptons livrer dans les délais.
La grève des ouvriers sur certains chantiers en juillet dernier, ajoutée à un mouvement d'humeur de fournisseurs, a laissé planer des doutes sur la capacité de l'entreprise Prime Potomac à tenir ses engagements. Hamadou Moussa, directeur régional de Prime Potomac, pour le Nord.
Tout le monde a expliqué que l'attitude est prévenue. Le gouvernement a répondu et la dernière visite du Premier ministre avec lui, autres ministres, a facilité la tâche à tous les niveaux. Et si vous voyez l'évolution de nos chantiers, sont au-delà de ce qui a fallu. Donc on a été aidé par les fournisseurs qui aujourd'hui sont partiellement payés et les restes.
Reste que cette tension sociale a marqué les esprits. Impossible de faire parler un ouvrier de Prime Potomac sur ses conditions de travail et de vie. Les populations, quant à elles, semblent se réjouir de la transformation que va connaître la ville de Garoua dès la fin des travaux. Ousmaïla Abba, commerçant à Garoua.
Le bossage du terrain, quand même, je suis très content. Puisque c'est presque fini, le gros travail quand même est fini. Et seulement maintenant, les petits travaux seulement. Avec 5 terrains, avec 2 à 3 hôtels quand même, la ville quand même sera belle quand même.
À Garoua, l'on croise désormais les doigts pour que la CAN 2019 ne soit pas retirée au Cameroun. Emmanuel Jumtap à Garoua, VOA Afrique.
Dans la prochaine édition de Votre Santé, Votre Avenir, nous parlerons de la 10e épidémie d'Ebola en RDC.
Une semaine seulement après la fin de la 9e épidémie dans la province de l'Équateur, de nouveaux cas ont été confirmés à 2500 km dans le Nord Kivu.
Pour en parler, nous recevrons le docteur Moutaza Lusungu-Baba, médecin à Beni, dans la province affectée. Il donnera les conseils pratiques aux populations pour éviter la propagation de la maladie.
Nous écouterons aussi le ministre congolais de la Santé qui est descendu sur le terrain. Il nous parlera des premières mesures de riposte.
Votre Santé, Votre Avenir est un programme de VOA Afrique diffusé les samedis, dimanches et mercredis à 8h30, temps universel.
Ne manquez pas le rendez-vous.
Bonjour, c'est Nathalie Barge pour vous rappeler de ne pas manquer le monde au féminin de VOA Afrique, mardi et samedi à 19h05, temps universel.
Le monde au féminin.
Une émission dans laquelle on aborde les questions qui concernent et préoccupent les femmes et les jeunes. Un espace réservé à tous.
Le monde au féminin.
Un espace qui donne la parole à celles et ceux qui osent aller de l'avant comme vous. Le monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel sur VOA Afrique.
Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, John Ellison. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.